Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers popophiles, popovores, popologues de tout poil, nous voici donc réunis pour une nouvelle itération de notre podcast Pop en stock. Nous avons à la barre et aux commandes donc Hélène Després, qui connaît énormément bien la franchise transpersonnage dont on va parler, et elle connaît aussi très bien tout le contexte éco-apocalyptique dans lequel il s'intègre. Bonjour Hélène.
Salut Antonio.
Donc, merci d'être là. Nous accueillons aussi Mathieu Ligoyette, donc, que vous connaissez sans doute, puisqu'il est à la tête d'une des publications les plus intéressantes, donc Panorama Cinéma, et aussi grand spécialiste de la bande dessinée, donc un invité incontournable pour cette franchise qui commence comme une BD culte et qui s'est transformée en un film qui lui-même est en train de devenir à la fois donc une sorte de classique, et accueillir son culte à lui. Donc, merci Mathieu.
Bonjour Antonio, bonjour tout le monde.
Et Simon Laperrière, qui aussi grand spécialiste donc, du cinéma et de quantité d'itérations, non seulement des genres, mais plus globalement des imaginaires, et qui a sorti notamment donc, son livre sur Bob Dylan dans le cinéma en ce moment. Bonjour Simon.
Bonjour Antonio.
Donc on est très content parce qu'on est entre amis et aussi parce que effectivement on s'est dit que finalement le transpersonnage a acquis aussi un statut tout à fait particulier. La deuxième saison de la série Netflix vient d'avoir un succès important et la troisième saison est déjà signée. Donc le transpersonnage a le vent en poupe, même si ce n'est pas un bateau, mais le moteur continue à carburer. Pour comprendre cette saga, somme toute un peu improbable, puisqu'elle aura connu toutes sortes de péripéties quelque peu rocambolesque, à commencer par la mort du premier dessinateur dans un très jeune âge, qui a été un choc pour la bande dessinée francophone de l'époque et qui a attendu beaucoup d'années de manière latente avant de devenir un phénomène mondial et transnational. Peut-être un des aspects à évoquer en guise d'introduction, c'est le fait que la bande dessinée, donc parue en 1981, scénarisé par Jacques Loeb et dessiné par Jean-Marc Rochette après la mort donc, du premier dessinateur pressenti Alexis, donc à 31 ans, hein, c'est quand même assez incroyable. Elle s'inscrit donc, cette bande dessinée, dans un climat tout à fait particulier, dans le double sens du terme. Il y a d'un côté la hantise d'une sorte de nouvel âge glaciaire qui est très présent tout au long des années 70. Et c'est assez particulier puisque nous sommes maintenant obsédés par son contraire, c'est-à-dire par l'idée du réchauffement climatique. Mais en fait, l'idée d'une glaciation faisait appel à toute une poétique du monde glacé qui était déjà représentée dès le 19e siècle dans une série de fictions cataclysmiques de la fin de siècle. Évidemment, la fin de siècle, la fin du 19e siècle, qui était férue de toutes les apocalypses et de toutes les fins du monde, avait aussi contemplé une version glaciale, mais qui, pour l'époque, était plutôt vraiment du domaine de la conjecture. Or, avec la bombe atomique, une des premières hantises qui apparaît avec le nucléaire, c'est l'idée de l'hiver nucléaire. Et très curieusement, l'hypothèse de l'hiver nucléaire, elle commence dans la fiction. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. C'est la science-fiction dans une nouvelle parue dans Astounding Science Fiction, le célèbre pulp, en 1947, Tomorrow's Children de Paul Anderson et Waldrop, qui met en garde contre ce qu'ils appellent un Fimbul Winter, causée par la poussière qui a bloqué la lumière du soleil après une récente guerre nucléaire, et l'idée donc que s'il y a un conflit nucléaire généralisé, non seulement il y aura l'effet dévastateur des bombes, mais qu'il y aura par la suite donc cette altération radicale. Idée qui est reprise 10 ans plus tard par Anvil dans une histoire dans le même magazine qui s'appelle Torch, et où c'est la même idée que l'ogive nucléaire qui met le feu à un champ pétrolifère produit donc une sorte de masse qui occulte le soleil et qui entraîne des températures arctiques autant en Amérique qu'en Union soviétique. Donc en 57, on est déjà complètement dans le domaine de la guerre froide et c'est l'idée de quelque chose qui anéantirait finalement les deux superpuissances en conflit. Cette idée de l'hiver nucléaire, elle va continuer et elle va être présente dans quantité de fictions qui ont sans doute marqué Jacques Loeb pour la genèse un peu de son idée. Mais parallèlement, ce qui s'est produit dans les années 70, c'est une sorte de polémique dans le milieu scientifique entre les premières hypothèses sur le réchauffement climatique et au fond son contraire, le global cooling. Le 11 janvier 1970, le Washington Post publie un article « Colder Winters Held Dawn of New Ice Age » et 4 ans plus tard, c'est Time Magazine qui présente un célèbre article, donc « Another Ice Age » avec point d'interrogation, suivi 1 an plus tard par le magazine Newsweek qui lui consacre un article plus conséquent qui s'appelle « The Cooling World », mettant en évidence des signes inquiétants indiquant que les régimes climatiques de la Terre ont commencé à changer et signalant une baisse d'un demi-degré Fahrenheit des températures moyennes au sol dans l'hémisphère nord entre 45 et 68. L'article de Newsweek ne mentionne pas quelles peuvent être les causes. On commence à parler déjà de cette idée de l'anthropocène et de l'idée que c'est probablement l'homme qui est en train de subvertir le climat. Et de manière assez proche des fictions de éco-apocalyptique, l'article mentionne quelques solutions possibles, mais en même temps fortement improbables, donc faire fondre la calotte glaciaire de l'Arctique, par exemple, etc. Ce qui va peut-être marquer plus les esprits, c'est une sorte de best-seller très ponctuel et vraiment fait pour nourrir la paranoïa de cet imaginaire, c'est The Weather Conspiracy, donc dès le titre, donc la complot du climat, The Coming of the New Age, et c'est publié non pas par un auteur, mais par un groupe qui s'appelle The Instant Team. C'est quand même un très bon groupe, c'est presque un groupe de super-héros. Donc, et 1 an plus tard, Leonard Nimoy lui-même présente dans un des épisodes d'une série de pseudo-documentaires un peu paranormaux qui s'appelait In Search Of, un célèbre show, donc une émission consacrée à The Coming Ice Age que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube si vous voulez regarder donc cette sorte de panique qui pour nous maintenant est devenue un peu farfelue et très vintage, mais il y a beaucoup de plans dans l'émission de tempête de neige. Et pour les Montréalais, c'est vraiment pas des paysans comme émission, mais ça raconte toutes sortes de trucs assez horribles. Et c'est vrai que c'était, il y avait eu un hiver particulièrement atroce à New York, etc., etc., qui avait créé beaucoup d'inquiétudes. Alors, dans la fiction, ça s'est traduit par une série d'œuvres qui se sont enchaînées dans les années 70. Donc, Winter's Children de Michael Coney en 74, The Sixth Winter de John Gribbin et Douglas Orgill de 79, qui est souvent considéré comme un des prototypes de l'éco-apocalypse moderne, si on veut, peut-être devrait-on dire post-moderne, ou de la cli-fi, donc la science-fiction climatologique, et The North Wind, donc de James Gunn en 81, l'année du transpersonnage. Mais peut-être plus encore, et ça c'est vraiment un cas très particulier de synchronicité, pour employer le terme jungien, c'est le début de l'immense saga de la littérature populaire française, la plus grande jusqu'à date, donc La Compagnie des Glaces de J.J. Arnaud, qui a accumulé un nombre invraisemblable de romans depuis donc son ouverture. Et ce qui est très curieux avec La Compagnie des Glaces de Arnaud, c'est que nous avons pas seulement la nouvelle ère glaciaire qui oblige l'humanité à vivre dans des villes sous dôme, mais que nous avons l'imaginaire du train. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment avec Arnaud, la Compagnie des Glaces elle-même, c'est le seul voie de communication qui reste dans cet univers glacial. Ce sont des compagnies ferroviaires qui se sont partagées le monde dans une sorte d'état de guerre permanent. Ce monde totalement dévasté et n'est parcouru que par ces immenses locomotives d'un autre temps. Alors, c'est très curieux parce que c'est difficile à dire. Les premières idées de Loeb, quand il était avec Alexis, date d'avant, mais probablement les idées d'Arnaud dataient d'avant aussi, surtout qu'il s'embarque dans des centaines de livres par la suite. Donc, ce qui est très, très curieux, c'est que la même année, nous ayons deux fictions, et ça, c'est vraiment rare, parce que ce n'est pas seulement deux fictions françaises qui vont vraiment être marquantes, mais aussi qu'elles aient des repères, si l'on veut, aussi proche. Alors évidemment, il y aurait toute une analyse comparée à faire puisque l'univers n'est pas le même, mais la transposition de l'univers des trains qui a une longue histoire dans l'imaginaire français, nous y reviendrons pour le transpersonnage, mais cet imaginaire des trains est associé à la glaciation, a vraiment quelque chose du zeitgeist absolu.
Il y a peut-être un truc que j'ajouterais par rapport aux années 60 quand même, qui ont été assez riches aussi en textes. Donc, on était en plein cœur de la guerre froide, puis effectivement, je pense que ça continue sur les années 40-50, mais je pense qu'il y a un roman, entre autres, Cat's Cradle de Kurt Vonnegut, que tu n'as pas mentionné, qui a eu un grand impact. Et puis, on est dans l'idée des armes aussi, qui dérapent, des savants fous, qui développent des technologies et qui finissent par geler la Terre entière. D'ailleurs, cette idée-là de la Terre entière gelée, c'est aussi un fantasme de cet univers-là. Donc, la Snowball Earth Hypothesis, donc, qui est arrivée plus tard un peu. L'expression est arrivée en 92, mais on en discutait déjà beaucoup avant dans les milieux scientifiques, c'est-à-dire l'idée qu'il y a 650 millions d'années, il y aurait eu un moment où la Terre entière aurait été glacée. Puis donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que dans les autres fictions, en général, on a, par exemple, c'est souvent l'Occident, en fait, qui est sous l'ère glaciaire. Puis ça, je pense, ça va avoir un impact assez grand parce que le transpersonnage, ça joue là-dessus beaucoup. C'est-à-dire que les autres fictions, souvent, l'Occident va geler, il va migrer vers le sud, va s'installer au sud, va avoir un renversement géopolitique. Mais là, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans l'humanité complète. Donc, je pense qu'on a un basculement dans le transpersonnage où on ne pense plus nécessairement en termes guerre froide, en termes de différents mondes qui s'affrontent, mais on pense vraiment en termes d'humanité. Puis ça, c'est assez nouveau, je pense, dans la fiction apocalyptique, où on réussit à dépasser les oppositions de ce genre-là.
En fait, c'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a comme une sorte de stratigraphie. Il y a la fiction de l'hiver nucléaire qui commence donc tôt et qui continue pendant toutes ces années-là, effectivement, et qui a des grands classiques, Christopher Priest, Le Monde Inverti, tout ça. Ouais. Mais dans les années 70, s'ajoute la nouvelle couche d'inquiétude, si l'on veut, qui est cette hypothèse du global cooling. Donc, c'est très curieux parce qu'on a d'un côté le spectre, justement, bombe atomique, hubris, savant fou, guerre froide, etc. Et après, quelque chose d'autre qui s'ajoute, qui est, de toute façon, c'est l'impact de l'humanité comme telle dans son quotidien, et non pas dans son hubris militaire, mais c'est dans son mode de vie qui génère cette glaciation. Donc, c'est assez curieux parce qu'au fond, ce qu'on a, c'est toujours un peu le même imaginaire dans ces fictions-là, qui est la Terre glacée, mais à chaque fois, on a comme des nouvelles couches d'inquiétude qui se rajoutent de comment on en arrive là. Oui. Et beaucoup de ces fictions vont jouer sur l'alternance soit d'une guerre, soit pas de guerre, mais quelque chose qui est arrivé, qui a perturbé le tout. Et c'est très curieux que finalement, ce soit toujours le même imaginaire qui revient.
Oui, je pense que c'est assez unique dans le monde apocalyptique, post-apocalyptique, d'avoir comme ça un type d'apocalypse qui a tellement de causes différentes qui s'ajoutent les unes aux autres.
Oui, ben.
Puis on avait déjà au 19e, parce que là, tu parles de global cooling, mais en fait, on parlait de la mort du soleil au 19e. C'est comme ça qu'on est venu à parler des aires glaciaires. Donc, on craignait la mort du soleil, donc le refroidissement de l'univers, éventuellement du soleil et de la Terre. On avait aussi les comètes qui s'ajoutaient à ça. Après ça, on a justement les guerres qui se sont ajoutées, les réchauffements climatiques. Puis là, maintenant, on est entré dans un nouveau paradigme où on a les global superstorms qui sont un signe du réchauffement climatique, bouleversement du climat.
Oui, parce que l'ironie de Day After Tomorrow, c'est que c'est le réchauffement qui provoque la glaciation. Donc là, on retombe toujours sur le même imaginaire, même si c'est en passant par l'hypothèse, au fond, un peu contraire.
Une question que je me pose par rapport à ça, qui me semble néanmoins pertinente, c'est à quelle décennie environ que l'hypothèse que les dinosaures ont été anéantis par l'écrasement d'un météorite sur la Terre a vraiment pris de l'expansion, parce que l'idée justement que ce météore-là aurait créé un immense nuage qui aurait bloqué les rayons du soleil et qui aurait éliminé les grands sauriens, il me semble que ça a dû avoir de lourdes conséquences dans l'imaginaire post-apocalyptique.
Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est imposé, mais dès le 19e, on parlait déjà d'astéroïdes qui provoquaient des aires glaciaires. Je ne suis pas sûre qu'on avait déjà fait le lien avec les dinosaures, mais c'était déjà là.
Oui, on l'associe beaucoup à, donc, lui, c'est Walter Alvarez, donc l'hypothèse Alvarez, mais qui est relativement récente, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a dû être là parmi toutes les théories qu'on proposait sur l'extinction des dinosaures. Je pense qu'il y avait ça. Mais effectivement, l'idée de l'ère glaciaire qui se projette sur le futur alors que ça vient du passé le plus lointain, c'est déjà quelque chose qui est établi. Il y a même à la fin du 19e des fictions très bizarres de guerre climatique où il y a des pays qui provoquent des glaciations dans d'autres pays, etc. Donc, au fond, ce qui est très curieux, c'est que c'est vraiment un imaginaire à la fois scientifique et à la fois parascientifique et à la fois entièrement fictionnel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de revenir à l'origine et voir si l'humanité survivra alors que d'autres espèces avant n'ont pas survécu. Donc ça aussi, je pense que c'est un des aspects très angoissants du transpersonnage.
Pour répondre aussi à l'idée des trains qui se mettent à dominer, en 81, je n'ai pas vraiment d'explication pour pourquoi cette année-là tout a convergé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de ces fictions-là que j'ai remarquées qui revenaient à un imaginaire de la révolution industrielle. Donc, on a vraiment beaucoup, par exemple, même Moorcock aussi, on a des ice schooners où on est toutes dans cette logique-là de la vapeur, de la machine à vapeur. C'était dans son gros, c'est moins le train que des bateaux, mais on en a énormément. Puis, parfois, ça va même jusqu'à... C'est une forme de régression culturelle, civilisationnelle en général, mais c'est aussi parce que, évidemment, l'époque de la révolution industrielle est associée à la chaleur en soi, c'est-à-dire que c'est une révolution de la chaleur, de l'énergie, et donc on est forcément dans une crise énergétique au moment d'ère glaciaire. Donc ça, on le voit beaucoup dans le transpersonnage, puis on le voit dans toutes les autres fictions du genre aussi. Fait que ça ne me surprend pas tant que le train soit devenu une figure assez importante.
Oui, et l'autre aspect aussi majeur donc de 1981, pour ce qui est de l'Hexagone, c'est évidemment l'élection de François Mitterrand. On a oublié un peu, bon, avec le temps, le climat assez particulier de l'arrivée des socialistes au pouvoir, qui a conjuré toutes sortes de fantasmes du passé. C'était présenté donc dans les milieux de conservateurs comme une sorte de retour d'une sorte de front populaire. Il y a eu donc ça a provoqué à la fois un immense espoir et à la fois aussi toute une série de hantises par rapport à un moment d'ailleurs où la guerre froide, c'est Reagan qui arrive au pouvoir aux États-Unis avec un programme au fond de réchauffement de la guerre froide. Donc, on reste encore dans les métaphores climatiques, mais c'est vrai que c'est très particulier. C'est un moment où justement la guerre froide reprend en force, il y a Afghanistan, etc., etc. Il y a un renouveau de l'angoisse du conflit nucléaire possible qui revient, associé avec le retour du spectre de la lutte des classes, qui va être l'autre grand élément du transpersonnel.
Parce que justement, pour revenir à l'imaginaire du train, qui est un thème très riche, ce qui est très important de tenir compte par rapport à transpersonnage, c'est que le train comme véhicule n'a pas la même charge symbolique en Europe qu'en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on est encore dans l'imaginaire de la révolution industrielle. Le train, c'est le signe du progrès, c'est le signe de la conquête, c'est le signe d'une société qui peut, et j'emploie pas le terme innocemment, dérailler. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que dans la science-fiction, le train survit à l'humanité. On a souvent ça dans les jeux vidéo post-apocalyptiques. Le train fonctionne toujours. Je pense à dans La Tour sombre de Stephen King, Blaine le Mono, c'est cet immense train qui règne sur une ville qui a été abandonnée par ses habitants. Un train suicidaire, d'ailleurs, ce qui est quand même une idée très, très forte qui apprécie les énigmes. Alors, en Europe, évidemment, je pense qu'il y a tout le traumatisme des camps de la Deuxième Guerre mondiale qui a une charge symbolique très, très, très importante et qui m'apparaît par rapport à la lutte des classes inhérente au transpersonnage.
Oui, et d'ailleurs, je dirais que dans le train du transpersonnage, qui est un peu le mythe du transpersonnage, c'est le titre même du livre initial, et c'est, je pense, le vecteur du mythe. Et je pense qu'effectivement, il y a plusieurs imaginaires du train qui se superposent, parce que d'après donc les déclarations de Loeb lui-même, etc., il y a des influences multiples. Il y a d'un côté le transsibérien. Le transsibérien, c'est effectivement la transposition de l'imaginaire de la conquête de l'espace, donc par la machine, de la même manière qu'on va trouver le train dans le western comme l'artère justement civilisationnelle dans la wilderness et ce qui repousse sans cesse la frontière. Dès que le train arrive, on passe à un autre stade de la frontière. Mais dans le transsibérien, ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a pas le même imaginaire de la destinée manifeste américaine, etc. C'est juste ce truc qui traverse donc la Sibérie et qui doit se rendre jusqu'à l'autre bout, donc la Mandchourie, avec un imaginaire qui venait d'ailleurs d'être réactivé dans la bande dessinée par Hugo Pratt dans sa série du Corto Maltese, en reprenant un épisode important de la guerre civile russe où justement les trains avaient fonctionné comme des sortes de forteresses mouvantes. Le train était devenu une machine de guerre. C'est aussi le train blindé donc de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi l'Orient Express, c'est-à-dire c'est aussi le train bourgeois par excellence. Et au fond, ce que l'on a, et tu as raison tout à fait, Simon, de parler des camps et les trains des camps, inévitablement, qui partaient de Drancy. On a à la fois le train comme véhicule de luxe pour ce qui est des nantis dans le transpersonnage, et où il y a justement un imaginaire assez érotique qui revient à des anciens textes sur le train comme véhicule érotique dans les textes comme La Madone des Sleeping des années 20, les textes de Paul Morand, etc. Il y avait tout un imaginaire érotique du train qui après se transférera sur l'avion, curieusement, dans Emmanuel et tout ça. Mais donc, on a à la fois donc, le train comme le véhicule des riches, on a à la fois le train comme machine de guerre, et on a à la fois le train comme machine de destruction et d'extermination. Donc, je pense que c'est ça aussi la richesse du modèle. Et d'ailleurs, un des grands enjeux pour les dessinateurs, d'abord pour Alexis, ensuite pour Rochette, ça a été le train, vraiment faire le train. Et c'était le principal écueil pour une bande dessinée. Et d'ailleurs, je pense, Mathieu, tu voulais nous parler de l'aspect de la bande dessinée comme telle visuelle. Et c'était un vrai défi de créer toute une bande dessinée claustrophobe, le paradoxe du voyage, du nomadisme claustrophobe. Et c'était un des grands problèmes qu'avaient eu les dessinateurs pour trouver des angles de vue, etc., etc., qui seraient intéressants dans un espace aussi restreint et qui donne un côté presque un peu maniaque et totalement claustrophobe à l'expérience de la bande dessinée.
J'ajouterais à ces différents thèmes là, que vous avez associés au train, je dirais aussi celui du cosmopolitisme, qui est aussi assez bien incarné autant par le transsibérien que par le transpersonnage. Il ne faut pas oublier, dans le fond, que le transsibérien, c'était quand même aussi une espèce de gros mixeur culturel qui apportait, qui permettait à une grande, grande partie des gens, par exemple, notamment d'Europe de l'Est, de voyager jusqu'en Asie, jusqu'en Chine, puis ce qui a vraiment énormément aussi beaucoup participé à mélanger les cultures, puis à faire cette espèce de lien là, aussi très historique, très fort entre la Russie et la Chine. Je parle de ce cosmopolitisme parce qu'une des dimensions que je trouve en fait assez intéressante dans le transpersonnage, dans la démarche de Loeb, c'est toute sa vision, je dirais, assez anticapitaliste. Il y a une espèce d'universalisme prolétarien, je dirais, dans la démarche de Loeb, qui est assez forte dans le transpersonnage, puis qui, dans le fond, me rappelle un bouquin qui est sorti à peu près dans les mêmes années, en 77, de Paul Virilio, « Vitesse et politique », où Virilio donc, développe un concept que j'aime beaucoup, qui s'appelle la dromocratie. La dromocratie, essentiellement, ça consiste à se pencher sur des manifestations politiques ou des dispositifs politiques ou de contrôle de la société ou des masses, mais à travers donc la gestion de leur vitesse et de leur capacité à se déplacer, dans le fond, à travers la gestion de leur mobilité. Puis Virilio, en 77, il pointe très bien, c'est un texte qui est très post-68 heures, là, il pointe très bien à quel point, dans le fond, pour vraiment se pencher sérieusement sur la manière dont il y a ces confrontations entre, je dirais, le socius et le polis, c'est de voir comment donc, la politique essaie constamment de restreindre les masses dans leur volonté de déplacement. Et le train vient évidemment donc à travers l'ère industrielle s'imposer justement comme bon, c'est cette espèce de grande invention qui va permettre aux gens de voyager aussi beaucoup plus facilement, aux gens de prendre des vacances, puis d'envisager le déplacement plus seulement comme quelque chose de pénible, de long, mais aussi comme quelque chose qui peut être donc simplement plaisant. En même temps, ça va permettre aussi aux masses ouvrières de se déplacer, etc., etc., on le sait. Mais ce qui est intéressant, donc, quand on ramène tous ces concepts-là, effectivement, comme vous l'avez bien fait depuis tout à l'heure, puis qu'on vient les cristalliser tous ensemble dans le transpersonnage, on se rend bien compte que l'espèce de méga hamburger que nous construit ce mythe-là, plein de tranches différentes, est assez fascinant parce qu'il permet justement donc, à tous ces éléments-là de coexister ensemble, incluant évidemment à chaque fois leurs contradictions, leurs paradoxes. Je pense que cette espèce de jeu du paradoxe, de l'utopie tout le temps et de son revers, est vraiment, je dirais, le trait distinctif qui m'a le plus frappé dans l'écriture de Jacques Loeb. Jacques Loeb, c'est un scénariste. Il est né en 32, il est décédé en 90. Il est connu, je dirais que quand on Google, la première chose qu'on découvre sur lui, c'est que c'est quand même le seul scénariste de l'histoire pour l'instant à avoir remporté le Grand Prix d'Angoulême, ce qui est quand même pas rien, et qui était donc à l'époque, peut-être aujourd'hui il est un petit peu oublié, mais disons que dans les années 70-80, c'était vraiment un scénariste incontournable pour tout ce qui touchait à la science-fiction, mais aussi, je dirais, à la bande dessinée de genre. La bande dessinée vraiment inspirée, disons, de la longue tradition de feuilleton, que ce soit Arsène Lupin, que ce soit les films de feuillade, que ce soit les comic books américains. En fait, Jacques Loeb, je dirais que ce qui m'apparaît assez frappant par rapport à sa carrière et à son style, c'est que c'est vraiment de loin un des scénaristes franco-belges qui est le plus américain parmi les autres scénaristes franco-belges. Donc, Loeb, étant donc un enfant français qui naît en 32, évidemment, il est extrêmement marqué par la Deuxième Guerre mondiale, qui expliquerait peut-être sans doute la résurgence comme ça aussi forte, aussi prégnante des trains de l'Holocauste dans le transpersonnage. Mais donc, au-delà de ça, c'est donc un gamin qui grandit absolument obnubilé par les bandes dessinées de Flash Gordon, de Guy Leclerc en France. Il va énormément donc s'inspirer de ça. On sait aussi à quel point, dans la bande dessinée originale de Flash Gordon, d'Alex Remond, à quel point justement tous les véhicules, que ce soit donc les astronefs, les trains de la planète Mongo, les espèces d'hélicoptères ou de skis vraiment, vraiment bizarres, je veux dire, Alex Remond adorait inventer des machines de déplacement pour se faire se déplacer Flash Gordon à travers les différents environnements de la planète Mongo, incluant des environnements hivernaux, des environnements de jungle, des environnements aériens. Flash Gordon, essentiellement, c'est de mois en mois, on se déplace d'environnement en environnement différent avec des machines différentes pour affronter ces différents aspects. Puis, donc, Loeb dit, souvent en entrevue, que Flash Gordon était vraiment une de ses inspirations principales, une des BD à laquelle il va revenir après ça plusieurs fois durant sa vie. Grand drame pour Loeb, alors que les nazis donc, occupent la France, les publications de Guy Leclerc s'arrêtent. Donc, Loeb est pris à un peu poursuivre dans sa tête la sérialisation, à imaginer donc la suite des aventures de Flash Gordon. Il est donc un peu pris avec ça, toujours obsédé par la bande dessinée. Dans les années 60, il essaie de devenir dessinateur. Il n'est pas suffisamment bon dessinateur, mais donc en proposant ses planches dans ce qui est alors un très, très jeune magazine Pilote, qui existe seulement depuis 2-3 ans. Donc, le chef de la rédaction de Pilote lui dit que, bon, c'est peut-être pas un grand dessinateur, mais qu'il pourrait peut-être scénariser parce que ses scénarios sont plutôt bons. Donc, à partir de ce moment-là, Loeb devient un peu scénariste par accident, puis il va se développer beaucoup avec donc, des dessinateurs très importants de l'époque. Là. Je pense particulièrement à Georges Pichard, qui va être un de ses complices là, pendant plusieurs décennies. Pichard, qui va surtout se faire connaître comme étant un grand dessinateur de bandes dessinées érotiques. Dans les années 60, Loeb, il va être un des premiers scénaristes dans la scène franco-belge à s'inspirer aussi ouvertement de la bande dessinée américaine, puis en particulier des bandes dessinées de Marvel Comics. Donc, à cette époque, Jacques Loeb va se mettre donc, à scénariser la série Submerman avec Georges Pichard, qui est un espèce genre de Namor, de Submariner, mais pour les enfants, un petit peu donc, bizarre. Un autre truc qu'il va faire par la suite qui est très intéressant, assez fasciné en fait, qui s'appelle « Le dossier des soucoupes volantes » avec Robert Gigi. Je vous le conseille, là, ça se trouve en usager si on fouille assez. Là. C'est un peu la Canal D, la bande dessinée. Là. C'est vraiment une espèce de bande dessinée super intermédiaire qui est bourrée de citations. C'est un travail de moine. C'est Loeb qui part avec... il essaie de rassembler, c'est une BD de 72, puis il essaie de rassembler l'essentiel de littérature sur les soucoupes volantes qui existent, autant en français qu'en anglais. Puis là, il cherche dans cette littérature-là, qui commence surtout après la fin de la Deuxième Guerre, hein, il cherche dans cette littérature-là les récits d'observation de soucoupes volantes ou d'enlèvement d'extraterrestres qui sont les plus réalistes possibles. Puis donc, il décide donc d'isoler ces histoires-là, puis il les scénarise, mais dans un style qui est, je dirais, extrêmement documentaire, très, très neutre. Il se veut le plus objectif possible. Il joue avec des facsimilés. Il y a carrément, dans des planches, il va carrément remplacer des dessins par des photocopies des photos d'observation de soucoupes volantes. Hein. Donc, on passe d'un registre graphique à d'un registre photographique constamment dans cette BD-là. Puis son écriture joue donc constamment sur cette espèce de mise en scène en facsimilé du réel. Ce qui est vraiment fort chez Loeb, puis c'est quelque chose aussi qu'on voit de manière complètement différente dans la série qui fait tout de suite après avec Pichard, qui est Blanche Épiphanie, qui est donc une série érotique, vraiment de la BD cochonne avec Pichard, qui a été publiée à l'époque, entre autres, chez les Humanoïdes Associés. Et puis, dans Blanche Épiphanie, c'est un peu comme une espèce de rencontre entre un truc de feuillade, puis vraiment une BD érotique, là, comme il s'en faisait beaucoup là, en France dans ces années-là. Puis en même temps, il y a un personnage donc, qui est toujours là au secours de Blanche Épiphanie, hein, qui est donc une Française blonde, plantureuse, super cliché. Puis donc le personnage qui vient toujours à sa rescousse, hein, c'est une espèce de super-héros, une sorte de mélange entre Phantom et Zorro, qui est donc extrêmement américain aussi dans sa manière de se comporter. Puis ce qui est drôle donc, dans Blanche Épiphanie, c'est à quel point, donc, bon, oui, c'est super grivois, c'est assez grossier, mais en même temps, c'est très bien écrit, c'est très bien structuré, mais c'est vraiment très, très bien écrit. Je veux dire, il y a plplein de passages, on dirait du Rabelais en BD, c'est vraiment étonnant. Il abuse absolument du subjonctif plus que parfait. C'est assez drôle. Puis donc, Loeb, c'est un peu comme quelqu'un, je trouve, puis en ça, il ressemble peut-être un peu à Goscinny. Il y a comme un rapport à la langue qui est assez matérialiste, je trouve. Il invente des mots. Où il invente des mots, où il a recours à des expressions ou à des usages du langage qui sont très anciens ou qui, à tout le moins, sont extrêmement connotés. Alors, tout de suite, par la force de l'écriture, il vient créer un cadre. Un cadre qui est clairement celui d'un genre en particulier, que ce soit donc le feuilleton, le super-héros, le western, le truc de soucoupe volante, où est-ce qu'on joue justement sur le côté un peu est-ce que c'est vraiment vrai, puis on nous fait douter constamment hein, de tout ça. Bon, il y a les manches bitumes aussi, qui est donc quand même une BD très importante de Loeb dans les années 70, puis qui va aussi vraiment beaucoup, je dirais, appréhender à la fois le transpersonnage, puis aussi donc différentes fictions post-apo, là, comme Mad Max, fait de la science-fiction post-apo australienne. Loeb, bon, fait un peu toutes ces choses-là, puis qui est donc, comme je disais, toujours très intéressant, c'est lui, c'est donc ce rapport assez matérialiste à l'écriture, où est-ce qu'il va essayer donc d'inventer des mots, de créer des cadres pour des genres. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le transpersonnage dès la première planche, quand on nous parle des queutards. Puis tout de suite, là, il plante une graine à ce moment-là, à la première planche, bon, OK, c'est quoi un queutard? Puis là, on est tout de suite vraiment absorbé par ça. Il y a d'emblée l'espèce de récitatif assez poétique hein, qui ouvre la bande dessinée, puis il y a plusieurs récitatifs qui viennent un peu chapitrer tout le premier tour, mais qui sont très beaux. Le premier, il dit « Parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète, roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage aux mille et un wagons. C'est le dernier bastion de la civilisation. » C'est quand même vachement bien écrit, ça roule, ça coule tout seul, c'est très chouette. Bon, Loeb va faire tout ça, il fait aussi Delirious, qui est un des épisodes de Landslum, de Druillet, il va faire vraiment plein de choses. Toujours passer d'un genre à l'autre, toujours avec cette espèce de sens de la prospective, je trouve, avec son écriture. Il vient de nommer les choses avant qu'on les voit. C'est quelque chose aussi qui revient aussi beaucoup dans Blanche Épiphanie, ce qui est assez étonnant, surtout pour une BD érotique comme ça. Et puis donc, qui à mon sens va vraiment prendre toute son ampleur là, dans le transpersonnage avec des concepts comme la cinq locaux. Et qui, avec simplement deux mots, hein, cinq locaux, on vient tout de suite comprendre le rapport que les gens ont à la locomotive, qui est vraiment un rapport de déité, hein, qu'ils vont vraiment vénérer. Puis qui à chaque fois, donc, va vraiment... Je trouve faire de Loeb un scénariste qui est à la fois un fin observateur, parce qu'il va vraiment toujours s'intéresser à essayer de capter un certain registre de langage qui s'accorde donc à la fois à un genre, mais aussi à disons, un certain groupe d'individus qu'il représente. Puis c'est quelque chose aussi qu'on ressent très bien à travers ces différentes bandes dessinées de lui que j'ai lues, c'est que ces différents personnages ont des voix qui sont distinctes. Et il travaille beaucoup sur les différentes voix de ces personnages qui viennent justement donc les caractériser en fonction de leur positionnement dans l'échelle, dans la pyramide sociale, là, pour le dire vite. Et c'est quelque chose qui, visiblement, lui tient énormément à cœur et qui, donc, évidemment, hein, préfigure le transpersonnage et toute sa vision donc extrêmement anticapitaliste et très prolétarienne là, donc de cette vision du futur.
Tout à fait, et on revient un peu donc à ce contexte assez explosif donc de 81. On est, comme tu l'as aussi évoqué, justement en France, inévitablement dans un après 68 et dans une redéfinition de qu'est-ce que la révolution et le sentiment, une mélancolie aussi de post-révolutionnaire, de se dire bon, est-ce que la révolution est encore possible, est-elle souhaitable, comment, etc. Et donc c'est vrai que le transpersonnage se situe tout à fait là-dedans. Il se situe aussi dans une révolution esthétique que tu signales et qui a accompagné, ça a été un peu la variante française de underground comics, et ça aussi ça va contribuer à son statut très particulier, parce que C'est une BD qui va être culte entre underground et plus science-fiction. Ça va avoir un peu ce statut très, très particulier de ces œuvres-là de cette époque-là. La bande dessinée accède à une grande légitimité en France, mais en même temps, justement, avec des sortes de grandes querelles esthétiques qu'on retrouve au même moment dans le monde de la cinéphilie, etc., etc., entre différentes avant-gardes et différentes visions de l'avant-garde, des avant-gardes plus politiques, des avant-gardes plus esthétiques, des arrière-gardes qui continuent à rouler parfaitement bien parce que c'est l'école franco-belge dans sa splendeur. Donc, il y a aussi des classicistes. C'est à la fois tout ce climat esthétique et ce climat politique qui est tout à fait intéressant et qui accompagne la création de cette œuvre.
Par rapport à la Révolution, ce qui est intéressant, c'est que tu as raison qu'on est vraiment dans le post-68, dans la Révolution impossible, parce que, en fait, dans la BD, il n'y en a pas de révolution. On a l'impression que la révolte était là dès le début, mais en fait, c'est dans le film qu'elle apparaît déjà, cette révolte-là. Elle n'est pas là au départ. Au contraire, les queutards ne sont pas représentés ou presque. C'est-à-dire qu'on a seulement Prolof qui réussit à passer. Dans quelques cases, il se rappelle sa vie dans la queue, mais autrement, c'est jamais représenté. Puis dans la bande dessinée, ben, la queue est juste larguée éventuellement. Les wagons de queue sont juste largués. Donc, on n'a pas de révolution possible, même qu'on n'a même pas de représentation possible, ce qui est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans le contexte des années 80, alors que dans les années 2000, ben, on a un retour quand même à certains optimistes qu'on peut penser une révolution. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est revenir sur ton idée de circulation que tu as évoquée au début à partir de Virio, que je trouve super intéressante, parce que la circulation, c'est partout, en fait, dans le transpersonnage, autant dans les BD que dans le film et la série, parce qu'on a à la fois la circulation dans le train, la circulation du train et la circulation d'informations, parce qu'on est dans la post-cybernétique, donc l'idée des trains, des camps, était aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'information ne circulait pas sur ce qui se passait dans les camps, même si on voyait les trains circuler constamment. Et donc, il y a comme un paradoxe entre la circulation d'informations impossible puis les trains qui, eux, circulent avec des humains et peuvent réussir à les envoyer à la mort sans que personne s'en préoccupe. Mais dans la BD, tu parlais de la circulation des classes sociales. Ce qui est intéressant, c'est que oui, Prolof, il passe dans le train principal, mais il ne traverse pas de porte. Il réussit à passer par l'extérieur. Donc, les wagons de queue sont complètement scellés. Ils sont inaccessibles pour qui que ce soit. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Eux n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le train principal, contrairement au film et à la série, où là, il y a énormément de circulation. Mais donc, on a vraiment une circulation des classes sociales complètement bloquée, avec aucun espoir de circulation possible dans le train. Et le train lui-même, oui, on n'arrête pas de parler de l'imaginaire du train, mais normalement, le train, ça va quelque part. C'est ça, un train. Un train, ça a une destination, normalement. Ça a des arrêts, ça a des gares. Mais il n'y a rien de tout ça dans le transpersonnage. C'est un peu un faux train aussi, le transpersonnage, parce que c'est un train qui roule à vide, qui roule en rond, puis il n'y a pas de destination. Donc, il y a cette idée-là de la circulation qui est bien présente, mais qui en même temps tourne à vide, ne fonctionne pas. L'information ne circule pas du tout non plus. Prolof est amené à l'avant du train parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe dans la queue. Ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune information. Il n'y a rien qui circule. Alors que dans le film, ben, on a les intercoms, on apprend à la fin du film que celui qui dirige le premier wagon, Wilford, discute constamment avec celui qui dirige le dernier, et puis c'est eux qui organisent les révoltes pour diminuer la population du train. Donc, on a quand même une circulation d'informations qui est comme réenclenchée. On circule dans le train, c'est que ça le film, en fait. C'est une progression à travers le train. Et puis, la série télé ajoute encore un autre niveau à cette circulation-là qui est intéressante, c'est que quand le deuxième train de Wilford amarre le premier train, ben la queue devient carrément un poste de douane qui est instauré dans la queue et qui régule les passages d'un train à l'autre. Et donc là, on est en train de réinstaurer vraiment une structure sociale, des institutions, tout ça. Donc, on sent que la circulation est en train de se réenclencher d'une œuvre à l'autre à mesure qu'on progresse.
Totalement raison, Hélène. Puis en fait, ça me fait penser que, justement, je pense que tout le pessimisme qu'on ressent autant dans ce premier tome, dans le seul scénarisé par l'OB, finalement, c'est le fait qu'il y a une pure illusion de possibilité de mouvement à l'intérieur du train, mais qui ne peut jamais se concrétiser jusqu'au bout. Quand Prolof arrive au bout de la locomotive, il est un peu condamné à devenir un peu, d'avoir le poids de la vérité sur ses épaules. Puis à ce moment-là, c'est un petit peu, je trouve, pour l'homme une manière de refermer le récit, hein, puis de l'internaliser finalement. Hein, parce que un peu comme s'il plaquait le mythe du transpersonnage sur le mythe, disons, du jeune révolutionnaire du 20e siècle, qui est vraiment, c'est un peu l'héritage de mai 68, là, l'impression d'avoir la possibilité de pouvoir changer les choses, et finalement se dire que oui, même si on fait deux pas dans une telle direction, ben, je veux dire, il y aura encore des gens dans la tête du train, hein, puis il y aura encore d'autres gens dans la queue du train derrière nous, puis que bon, peu importe où on va se déplacer, on va toujours être pris dans cette espèce de surplace.
Puis au pire, on va même devenir celui qui est dans le train en avant.
Oui, absolument.
Oui, puis l'idée aussi que c'est la machine, c'est-à-dire qu'il y a ce que la société qui s'est construite autour de la machine, mais il y a la machine elle-même. Et au fond, ce qu'il devient, il y a un côté un peu Apocalypse Now, donc aussi un côté Heart of Darkness de Conrad, inévitablement, de la remontée du Mekong pour retrouver Kurtz et devenir Kurtz dans l'interprétation que donne Coppola du récit de Conrad, donc initiatique, mais à la fois contre-initiatique quelque part. C'est le modèle qu'à la fin, on est en symbiose avec la machine. Donc, on dirait qu'il y a comme là aussi des strates, de la même manière qu'il y a des strates de l'imaginaire autour du train dans la glaciation, je pense qu'il y a des strates aussi dans le train entre l'imaginaire d'une société post-apocalyptique qui se reconstruit, mais d'une manière qui est plutôt un retour à la barbarie, puisqu'il y a même le cannibalisme qui est évoqué, donc c'est le grand emblème de l'anomie sociale ultime et de la décivilisation. Mais parallèlement, il y a cette sorte de perpetuum mobile, de rêve de la machine autotélique qui fonctionne toute seule, mais qui en même temps est basée sur quelque chose, au fond, d'assez sacrificiel. Et donc, on a comme les deux niveaux d'aliénation, l'aliénation par rapport à la classe, à la lutte des classes qui se reconstituait et qui s'est comme solidifiée autour de la survie dans le train. Mais il y a aussi quelque chose de peut-être encore plus sinistre qui est la machine elle-même et qui est peut-être ce qui oblige, au fond, à une sorte de fuite en avant perpétuelle. Et c'est cette impression qui peut-être relie un peu l'intérieur et l'extérieur dans le sens où on retrouve un peu cette angoisse apocalyptique d'une humanité qui est en train de provoquer son désastre dans le modèle climatique, d'une humanité qui continue à rouler, à carburer, etc., et qui en même temps est en train de provoquer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas directement dans le texte, mais je pense que c'est quelque chose qui est devenu d'autant plus parlant pour les générations ultérieures qui ont une lecture plus écologique encore que ce qui était présenté dans ces éco-apocalypses anciennes.
Je crois aussi qu'il y a une lecture très cynique de notre emprisonnement au sein du système capitaliste qui est bien représenté par le train lui-même. Parce que comme Mathieu, Hélène, Antonio, vous l'avez démontré, bien que le récit se passe dans le futur, on n'échappe pas au présent. Les mêmes problèmes persistent, ils sont même encore plus évidents. Je pense évidemment à la lutte des classes. Mais ce que le dernier tome du premier volume du transpersonnage démontre, c'est que mettre le train en arrêt, c'est la seule fois dans cette bande dessinée-là où ils le font, ça ne fait que confirmer que la fin de l'humanité approche. Il n'y a aucun espoir qui est permis. La finale de transpersonnage là-dessus est absolument renversante. Il croit avoir été contacté, repéré d'autres survivants pour finalement se rendre compte qu'ils se font un peu piéger par une machine qui est similaire au train. C'est un radio qui joue en loop la même chanson. Et cette découverte-là, ils n'ont même pas le luxe de l'espoir. Ils ont même, et je pense que c'est tout à fait logique que le pan du récit-là ne se termine pas dans le train. Il se conclut dehors, pour souligner le poids de la tempête hivernale.
Pour clarifier, pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas lu les bandes dessinées, tu évoques donc les deux suites qu'il y a eu plusieurs années après le succès culte, mais isolé au fond du transpersonnage. Donc le volume « Les Arpenteurs » donc de 1999, et le volume qui conclut une sorte de première trilogie, mais rétrospective, si l'on veut, qui s'appelle « La traversée », donc en 2000. Donc le train qui s'arrête est dans Les Arpenteurs, et le signal radio qui est un piège et dans la traversée. Et Hélène, tu connais aussi les suites à ces ouvrages, donc Terminus et les préquels qui ont suivi. Et on dirait, puisque probablement celles qui nous écoutent sont peut-être plus familiers soit avec le film, soit avec la série, ce qui est assez curieux, c'est de voir qu'au fond, ce qu'on a, c'est vraiment une œuvre matrice qui est la bande dessinée de 81 et qui a très tardivement eu des prolongements qui sont devenus une sorte de franchise de bande dessinée, et à cela s'est ajouté le fait que c'est devenu un immense succès cinématographique dans une sorte d'adaptation, mais le terme d'adaptation est lui-même peut-être, il est toujours complexe, mais peut-être dans ce cas-ci, c'est à la fois quelque chose de très fidèle et à la fois quelque chose d'assez divergent par rapport à l'imaginaire, notamment par rapport au désespoir. Et c'est clair qu'en 81, on est encore dans le no future punk, etc. C'est vrai qu'il y a vraiment un sentiment d'apocalypse très fort, qu'on retrouve d'ailleurs dans des bandes dessinées post-apocalyptiques françaises de cette époque-là. Il y a aussi un micro-genre un peu post-apo français en bande dessinée qui s'est produit.
Oui, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est à la fin que la tournelle soit juste un piège. Puis finalement, tu sais, oui, justement, il s'arrête puis on descend dans la terre. Puis là, c'est intéressant parce que dans Terminus, on va justement opter pour la verticalité. Puis le train s'arrête. Puis là, on va descendre dans un ancien parc d'attractions qui était à côté d'une centrale nucléaire. Et où il y a une société qui vit, qui attire les transpersonnages, parce qu'on apprend qu'il y en a plusieurs, et qui attire les transpersonnages pour enrichir leur pôle génétique qui est en train de s'appauvrir à cause du nucléaire, à cause des radiations juste à côté. Donc, ils sont tous en train de devenir plus ou moins monstrueux. Et puis, ils portent tous des masques de souris, en fait. Donc, on retourne encore à l'intertexte avec Spiegelman puis Mouse, en fait, qui était déjà présente avec les trains, qui étaient représentés dans des cases très, très longues qui faisaient la planche complète. Donc, là, on voyait vraiment les trains qui traversaient constamment, qui ressemblaient à des trains à bestiaux avec un imaginaire concentrationnaire. Mais là, ça s'est replongé dans un vrai imaginaire concentrationnaire, mais sous terre. Donc, Terminus, c'est très, très différent. Pour moi, c'est presque pas un transpersonnage. Je pense que tu as raison de dire que ça peut juste finir par l'arrêt du train, mais qu'après ça, on dirait que c'est presque autre chose. J'ai beaucoup discuté avec cette bande dessinée-là parce que je la trouve pas inintéressante en soi, mais je suis pas certaine que ça a beaucoup de sens dans l'univers même du transpersonnage. Pour moi, ça la ramène complètement
ailleurs. Elle est de 2015, donc en fait, c'est vraiment très particulier comment cette saga s'articule autour du temps. Et non seulement elle est donc 15 ans plus tard que les deux autres volumes qu'on a évoqués, mais aussi elle vient après le film, au fond. Et donc, à partir de là, il y a même donc le cycle des préquels en bande dessinée qui va encore plus diverger. Et puis après, il va y avoir la série Netflix. Donc, au fond, on n'a vraiment pas quelque chose du tout d'organique qui suit un plan établi ou quoi que ce soit. On a vraiment différentes époques qui revisitent et différents auteurs dans différents médias qui revisitent l'univers proposé par Loeb et Rochette.
Et je pense qu'il faut reconnaître l'élément que l'on reconnaît rarement à l'université. Pourquoi ce livre-là existe? Le film venait de sortir. Il a été un gros succès en France. Les auteurs ont décidé de capitaliser sur la popularité du métrage en publiant ce livre-là. Ça m'apparaît comme un projet qui est ultimement très opportuniste. C'est un peu un livre qu'ils ont fait par obligation et que nous, on lit par obligation. On n'a pas le choix, c'est la suite du transpersonnage. On veut savoir ce qui se passe. Et ça fait en sorte, tu vois tout à fait juste, Hélène, c'est pas tant une suite, c'est plus un spin-off. Et on ne sait pas vraiment où situer ce récit-là qui, en soi, annule celui qui le précède, parce que là, on nous démontre que dans cet univers-là, finalement, il y a un autre mode de survie qui est possible, qui est de vivre sous terre. Et ça en vient à complètement dédramatiser le concept même du transpersonnage. J'ai eu une expérience similaire tout récemment en jouant au plus récent jeu de Resident Evil, dans lequel il y a de la magie. Et il n'y en a jamais eu avant dans cette série-là. Pas que ce soit complètement tiré par les cheveux. Si Umbrella peut ramener des morts vivants, il peut bien y avoir de la magie. Mais il y a vraiment un point de rupture au moment où la magie apparaît dans le jeu qui nous fait dire « Mais on est dans quel régime maintenant? » Et j'avais eu la même impression en lisant Terminus. Les hommes souris, ils ont un beau design, ils sont impressionnants, mais on a vraiment l'impression qu'on est ailleurs. Et là, c'est un point de vue critique plus qu'académique, mais j'ai comme l'impression que les auteurs ont échoué à réussir cette transition-là vers un autre univers. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
La nouvelle trilogie qui vient de commencer à paraître, il y a seulement 2 volumes de paru pour l'instant, qui se nomme Extinction, qui est donc un préquel, change encore un peu plus la donne, ou en tout cas semble nous éloigner du canon original, puisque dans la première bande dessinée, lorsque Proloff atteint la locomotive, il découvre un ingénieur du nom d'Alex Forrester qui prétend être à l'origine du principe Forrester, qui est donc à l'origine du fonctionnement même de la locomotive. Mais il n'y a pas que de la personnalité particulière autour de lui. On n'a pas d'explication non plus sur pourquoi il a lancé le train, comment et dans quelles circonstances. Dans les nouveaux, donc, Extinction, qui sont supposés se passer une bonne décennie avant, c'est un certain M. Zeng, qui est un philanthrope pékinois, qui conçoit le train et qui, avec d'autres ingénieurs par contre, mais dans un but donc philanthropique et non pas pour lancer une croisière luxueuse et non pas non plus pour des raisons techniques. Par contre, ces deux personnages-là, donc Forrester et Zeng, semblent déjà entrer en contradiction à l'intérieur même des bandes dessinées pour ce qui est des origines du train, entrent encore plus en contradiction avec Joseph Wilford, qui est le personnage créé dans le film, joué par Ed Harris et par Sean Bean dans la série télé. Donc, ce personnage-là, qui est l'objet d'un culte de la personnalité très, très important, qui est, oui, un ingénieur, mais surtout un industriel, quelqu'un de très, très riche et qui veut qu'on lui voue un culte. Et qui devient un personnage politique de pouvoir très important. Donc, on a tous ces personnages-là qui s'entremêlent un peu dans le canon, dans les explications sur les origines du train. Dans les nouveaux d'Extinction, c'est des sectes survivalistes qui ont détruit le climat. C'est plus du tout de l'ingénierie climatique. Donc, on change quand même beaucoup de choses. On réécrit plus ou moins l'histoire. Puis, on est complètement dans un autre univers parce qu'on embarque dans le train seulement à la fin du deuxième tome. Le troisième n'est pas encore paru. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est on voit l'embarquement autre que juste la pagaille qu'on voit dans la première BD, le film, la série. On voit l'embarquement qui a été tenté de manière très utopique, c'est-à-dire qu'on avait une liste qui avait été établie de gens qui seraient importants pour survivre pour l'humanité et non pas basés sur leur richesse. Donc, on avait l'intention d'aller chercher des gens partout sur la planète qui étaient des gens parfaits à faire survivre ensemble. Puis évidemment, plus la catastrophe évolue rapidement, plus chaque embarquement est impossible. Puis à la fin, tout le monde se précipite, sont obligés d'embarquer tout le monde dans la dernière gare où il reste encore des humains vivants. Donc, il y a quand même une opposition entre l'utopie puis la réalité du chaos qui est quand même intéressante. Mais c'est vrai qu'on est encore complètement ailleurs. Un des problèmes, je pense que tu as raison, je pense qu'ils ont voulu beaucoup utiliser le film comme excuse pour continuer, mais je pense qu'aussi le problème vient peut-être de Rochette lui-même, c'est-à-dire que j'ai entendu une entrevue récemment, puis lui a l'air très motivé à continuer depuis le début, mais ça vient toujours de lui, puis il cherche toujours des scénaristes, puis il est toujours en train de renvoyer ses scénaristes parce qu'ils n'ont pas la même idée que lui, alors que son dessin a beaucoup évolué, puis de moins en moins intéressant, à mon avis. Donc, je sais pas, je pense qu'il est peut-être un petit peu la cause de cet éparpillement-là, en fait. C'est que lui, il a des idées précises, puis il veut en faire la plus longue BD, le plus long roman graphique jamais fait en France, un truc comme ça. Donc, je pense qu'il est un peu pris dans cette logique-là. Mais il y a quand même des trucs intéressants dans les nouvelles BD, c'est clair.
Ben, Terminus fait le même effet qu'a été la surprise de découvrir la suite à Dark Knight Returns de Frank Miller. Et là, c'est, je vais le dire en anglais, all over the place. On serait porté à dire qu'on baigne dans une immense absurdité, un gros je m'en foutisme de la part de Miller. Mais malgré tout, il y a des idées réellement fascinantes dans cette bande dessinée-là. Et je trouve que Miller a trouvé une sorte de maturité dans son dessin. Mais c'est un projet qui est malade. On ne sait pas comment l'appréhender. Puis ça, Mathieu, peut-être tu peux me le confirmer, mais j'ai l'impression que autant on va beaucoup parler de Dark Knight Returns, la bande dessinée, généralement, sa suite n'est pas abordée dans les études sur Frank Miller. Ou plutôt comme un « Ouais, il y a ça, ça existe, mais on ne veut pas trop si... »
Avant, ça veut dire que c'est le début de la fin. Là.
Aussi, ouais.
Pas mal ça. Mais c'est un peu... Mais c'est une bonne comparaison entre Miller et Rochette parce que c'est vrai que c'est... C'est dans, en plus, c'est dans les deux cas, ça se passe un peu au tournant des années 2000. Puis c'est des gens qui ont eu leurs heures de gloire dans les années 80. Puis là, bon, ils retournent vers le truc qu'ils ont fait, qui a le plus marché. Puis tu sais, ils essaient de faire une espèce de dernier rodéo avec. Puis clairement, Crochette s'est enfoncé là-dedans. J'ai seulement lu, en fait, là, les deux premiers tomes qu'il a fait là, avec Le Grand, qui était quand même pas si pire. Là, mais j'ai pas de difficulté à imaginer que rendu à Extinction ou à Terminus, là, on soit rendu peut-être un peu épuisé là, par la formule rendue là. Ah. Complètement d'accord avec ce que tu disais, Hélène, par rapport au style du dessin de Rochette. C'est assez sidérant. Mais en fait, pour ça, c'est quand même intéressant parce que c'est très rare quand même, à travers une même saga, qu'on puisse voir le trait d'un dessinateur évoluer, changer autant. Après, est-ce que c'est mieux? Personnellement, moi, je trouve pas. Je trouve que quand, au début des années 80, il est vraiment au top de son art. Là. Puis il a un style qui est vraiment très, très intéressant. Puis après, ça rapproche un peu plus là, d'un style qui... ça finit par faire penser un petit peu à Walking Dead. Là. Puis pas nécessairement pour les meilleures raisons. Puis je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est lui aussi, là, si ma mémoire est bonne, qui fait les sketchs qui sont vus dans le film de Bong, là, Snowpiercer.
Ouais.
Puis qui sont des sketchs là pour le coup assez intéressants mais très expressionnistes là où on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sombre, de très sali aussi, mais qui je pense aussi a contribué en quelque sorte à réaffirmer l'importance de Rochette comme entre guillemets du grand imagier de tout cet univers là. Il est un peu le type qui nous raconte cette histoire-là de A à Z.
Puis on a repris ses dessins aussi dans le générique de la série, en fait. C'est ses dessins, c'est ses sketchs à lui. En fait, Rochette n'a pas beaucoup aimé le film. Je pense qu'il a fini par se rallier, mais il aime beaucoup la série, par contre. Il était assez convaincu. Puis le film, en fait, c'est qu'il a très, très peu participé. Oui, il a fini par faire les dessins, mais il n'en a rien su autrement. Je pense qu'il était très frustré d'être laissé de côté.
Ben, ça finit par être un film de bang, vraiment.
Mais vraiment, c'est ça. Puis ça, c'est pour ça que je pense qu'il a fini par accepter que c'était une œuvre à part qui avait ses mérites, qui n'était pas une adaptation, mais je pense que ça n'en est pas vraiment une non plus, mais peut-être Simon pour continuer là-dessus. Mais oui, effectivement, pour moi, le dessin qui est devenu en couleur déjà, ça a été vraiment un problème pour moi. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, le transpersonnage en couleur, parce que c'est l'opposition entre la noirceur du trait de l'intérieur puis le blanc de la neige qui rend ça si fort visuellement. Donc, pour moi, ajouter des bleutés tout le temps, c'est devenu vraiment très, très léché, son dessin, alors que ça rend pas du tout, je trouve, l'impression du train du début.
Oui, puis le paradoxe donc, auquel on est confronté, c'est que c'est une œuvre vraiment close sur elle-même. Il y a une logique, donc, en 81, qui est cette logique initiatique où finalement, celui qui semble fuir, au fond, devient le cœur, littéralement, du système. Et c'est un de ces paradoxes de la manie de la franchisation dans laquelle nous sommes que de vouloir à tout prix prendre des œuvres phares et en faire des itérations, soit par le remake, soit par le prequel, soit par le sequel, etc. Donc, on est vraiment dans une obsession qui est là, elle, tout à fait contemporaine, bien qu'elle date depuis les origines du cinéma. Mais disons que là, elle s'est hypertrophiée comme un peu beaucoup d'autres aspects de la culture contemporaine. Et donc, je pense qu'on a voulu vraiment plaquer une logique sur ça qui est un peu malaisée. Ceci dit, le grand coup de génie, c'est effectivement le film. Et donc, cette rencontre très improbable, et là, c'est un effet très curieux de la globalisation. Donc, c'est Bong Joon-ho qui découvre la bande dessinée tout à fait en fouillant donc une boutique spécialisée en bande dessinée à Séoul. Et là, il y a un côté vraiment fascinant de se dire que non seulement à travers le temps, mais à travers donc les cultures, et qu'il y a donc un autre artiste qui se découvre vraiment dans cette bande dessinée. Et il faut imaginer quand même que c'est incroyable parce que dans la quantité d'œuvres de manga, de manhwa, etc., etc., qui devait y avoir dans cette boutique-là, il y a quelque chose de sidérant que bon, ben, ce soit le transpersonnage, œuvre culte, mais quand même bon, déjà assez francophone quand même, il faut le dire, dans son impact. Et donc, c'est une rencontre très improbable. Donc, un peu un de ces trucs de serendipity de la globalisation qui est assez singulière. Et à partir de là commence donc le projet assez fou de faire ce film dont tu nous parlais donc, Simon.
Ouais, d'ailleurs, un projet qui, au départ, avait fait un certain scandale dans le milieu de la bande dessinée franco-belge. L'idée qu'un Sud-Coréen adapte Transpersonnage, c'était très mal perçu. Il y a plusieurs plusieurs professionnels qui croyaient que ce projet-là aurait gagné à être réalisé par un Français, par un Européen. Mais ce qui est intéressant pour nous, justement, par rapport à la globalisation, c'est que, justement, on a vraiment ici un exemple de la grosse coprod, ou on pourrait même dire la transprod, qui, d'une certaine façon, en regroupant des talents de différents pays, en vient à avoir une certaine difficulté à s'ancrer dans une identité qui lui est propre. Il y a un concept qui est employé par les chercheurs en cinéma actuellement qui s'intéressent vraiment à la problématique de la coproduction, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est surtout vrai en Europe, quelle est la nationalité d'un film comme Dogville. C'est très difficile à déterminer, alors bien souvent, on va simplement rabattre ça sur l'auteur. C'est un film de Lars von Trier. En fait, on pourrait prendre tout le catalogue du distributeur Wild Bunch, qui sont aujourd'hui, qui est constitué majoritairement de coprod, incluant les films français, et on fait face à ce qu'on a décidé d'appeler un cinéma qui est transnational. Donc, c'est un cinéma qui est moins ancré dans ses racines nationales. On va regarder un film de Bertrand Bonello, on va voir un film de Bonello. On ne va pas forcément l'appréhender comme un film français. De toute façon, si l'identité d'un film se mesure à la hauteur de son budget, si on le détermine par qui a payé pour faire ce film-là, bien là, dans ce cas-là, ça devient très compliqué. Et j'ai comme l'impression que Snowpiercer, le film, en quelque sorte, c'est le blockbuster transnational. Là, on a vraiment le long-métrage qui a été conçu de façon très hétérogène. Un réalisateur sud-coréen pour une bande dessinée française, des producteurs américains, un casting international. Et on va tenter de suivre une formule qui a été mise de l'avant par Luc Besson, qui est celle de faire ce film qui va plaire à tout le monde. On veut faire un vrai film global. Et là où ça devient réellement intéressant, c'est qu'on se rend compte que le film lui-même devient... La production du film est à l'image du Transpersonnage. Les deux rassemblent des talents de tout azimut pour tenter de se rendre à une destination. Moi, personnellement, je considère que comme le train, le film va un peu nulle part. Il ne trouve jamais son ancrage. Pourquoi Bong Joon-ho a réussi à réaliser ce film-là? Le film sort en 2013. Il faut insister là-dessus. C'était un point où le cinéma sud-coréen avait réellement réussi à se révéler à la scène internationale. On est 10 ans après le succès d'Old Boy au Festival de Cannes, qui a vraiment fait l'objet d'une immense révélation pour le public occidental, une révélation qui a évidemment fait sourire tous les spécialistes du cinéma asiatique qui disaient « Gang, c'est parce que la Corée, ça fait des décennies qu'ils font du cinéma. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Park Chan-wook et même le concept de la nouvelle vague sud-coréenne avec des cinéastes comme Bong Joon-ho, Park Chan-wook. Ça a été immensément contesté par certains critiques. Mais ceci dit, j'ai comme l'impression que Snowpiercer, d'une certaine manière, c'est le point de finalité de cette nouvelle vague-là. C'est devenu le point de non-retour parce que ce qui était apprécié dans le cinéma coréen tente de s'uniformiser à un style qui n'est même pas tant américain, qui est vraiment un style international. Donc, le film qu'on peut présenter partout, mais il perd sa saveur locale. Quand on regarde le transpersonnage, j'ai un peu l'impression que d'un point de vue purement esthétique, on cherche Bong Joon-ho. On le retrouve surtout dans les scènes d'action qui semblent être très inspirées du cinéma de Park Chan-wook, qui est également producteur sur le long métrage. Et là, si on fait la liste de tous les producteurs sur ce film-là, c'est assez renversant. Tout le monde était à bord du train transpersonnage. Justement, j'ai comme l'impression que là, c'est le summum et l'échec du concept de cinéma transnational. C'est Snowpiercer.
Je ne dirais pas jusqu'à dire échec.
Mais c'est intéressant comme point de vue. Mais c'est vrai que c'est très antinomique avec la réception assez fascinée qu'il y a eu autour de ce film.
J'ai réécouté le film hier. Je l'avais vu déjà 2-3 fois il y a plus longtemps. Mais là, j'ai comme réécouté en même temps que je lisais un peu la BD, que je voyais la série. Donc, j'ai essayé de mieux comparer un peu. Puis, autant, la première impression que j'avais eue, parce que j'avais lu la bande dessinée avant de voir le film. Donc, je connaissais déjà le transpersonnage. Puis, je ne l'ai jamais vu vraiment comme une adaptation parce que, bon, premièrement, l'histoire n'est pas du tout la même. Il n'y a pas vraiment de point commun sur le plan de l'histoire. Mais surtout, le genre est très différent. C'est-à-dire que pour moi, la bande dessinée et la série, peut-être, sont un peu plus similaires dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils sont plus réalistes, sont sur de l'ordre vraiment du très réaliste même, psychologique, social. Donc, on est vraiment dans une réflexion sur, justement, les relations qu'il pourrait y avoir dans le train, sur la façon dont on pourrait gouverner un train comme celui-là, comment les luttes sociales se construiraient. Alors que le film, pour moi, est vraiment une allégorie, est vraiment une épopée. On est vraiment dans de l'ordre du héros grec, de la guerre de Troie, de la guerre de 300. On est dans un imaginaire qui est vraiment plus du côté du mythique, même du mythologique presque mondial, d'une certaine façon. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même ton. Puis en ça, pour moi, il est très réussi, ce film-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas réussi nécessairement comme une adaptation de Snowpiercer, du transpersonnage, je ne suis pas sûre prétend être de toute façon tant que ça. Mais je pense que ça répond bien à ton idée de film transnational. C'est-à-dire que je pense que le fond correspond au moins à ça. T'sais. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai effort d'essayer de trouver un imaginaire transnational aussi qui répondrait à ça. Donc pour moi, ce n'est pas juste du collage. C'est relativement organique pour moi la tentation de créer quelque chose qui serait sur une base qui ne soit justement pas nationale, qui parlerait comme à un imaginaire collectif de l'humanité qui est vraiment de l'ordre du héros. C'est des schémas vraiment simples, mais c'est dans cette simplicité-là que moi, j'ai plutôt apprécié le film. C'est-à-dire que les schémas, on ne connaît pas grand-chose de la psychologie des personnages, puis honnêtement, on n'en a pas grand-chose à faire. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent. On a des minuscules détails sur leur vie, mais c'est vraiment marginal. Et donc, ils sont réduits vraiment à des archétypes, puis la progression, elle n'est pas du tout réaliste. Il y a plein d'inconséquences, mais d'une certaine façon, c'est clairement volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de régime magique qui embarque. Parce que, bon, premièrement, on est loin de traverser 1000 wagons. Je ne suis même pas sûre qu'on le précise dans le film, mais je pense qu'il est plus court, le train quand même, dans le film. Considérablement plus court, parce qu'on a l'impression qu'il traverse quelques dizaines de wagons. Donc, peut-être plus à un train à 100 wagons qu'à 1000. Mais on a la traversée du train est vraiment montré davantage comme, à la limite, l'Odyssée d'Homère que comme vraiment une révolution où on aurait une réflexion politique réellement, où on aurait vraiment... Donc, on n'a pas l'impression qu'on a un renversement. D'ailleurs, il n'y a que les héros qui arrivent à la fin. L'écuteur meurt presque à 100%. Ben, finalement, le train, de toute façon, est détruit. Mais on n'a pas cette impression-là qu'on pouvait avoir dans la bande dessinée. Mais moi, j'avoue que je trouvais que c'était plutôt réussi, mais d'une manière très différente. Puis je pense que j'avais pas tant réfléchi sur l'idée transnationale, mais je pense que tu as raison. Je pense que le contexte fait que cette forme-là pouvait avoir du sens.
Ben, un truc qu'on remarque aussi dans le film et dans la série, c'est qu'autant la bande dessinée met de l'importance sur la question des classes, la question raciale est beaucoup plus présente dans les adaptations. Et ça, je trouve que c'est un point qui est fort intéressant. Plus on avance dans le train, plus les personnes de couleur en viennent à disparaître. Et sans surprise, Wilford est blanc. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est une expérience que j'ai eue en visionnant la série télé. Et ça, j'ai comme l'impression qu'actuellement, à cause de production transmédiatique de Marvel, on s'impose une lecture transmédiatique. Et je me souviens que quand la série est sortie, sur Internet, j'ai remarqué que plusieurs fans se demandaient où positionner la série par rapport au film. Mm-hmm. Et certains se demandaient si c'était pas en fait une suite secrète. Bon, finalement, c'est pas un spoiler, c'est pas le cas. Mais là, tu m'as ramené cette idée-là avec la possibilité qu'il y ait un deuxième train dans l'après-quel qui, de toute façon, est évoqué dans Terminus. Et là, immense spoiler, mais quand Jennifer Connelly disparaît dans la saison 2, elle trouve une grotte, un souterrain. Et là, je me suis posé la question, est-ce que les hommes-souris vont apparaître? Parce que justement, notre lecture est très encouragée à établir des liens dans un canon qui est défini.
Mais tu as raison. Je pense que notre lecture est beaucoup vers là, mais je pense que Snowpiercer fait tout pour détruire ça. C'est-à-dire qu'ils sont justement constamment en train de lutter contre une lecture qui serait de l'ordre du canon. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire, il n'y en a pas de canon. Mm-hmm. On est dans des variations sur un même thème. On a toujours des trains. On a un univers gelé. Le reste, on fait ce qu'on veut avec. On va avoir certains personnages qui se ressemblent un peu, certaines anecdotes qui vont revenir. Le personnage qui se suicide, par exemple, qui demande avoir de l'intimité et qui se suicide. Ce genre de petites anecdotes-là vont revenir. Mais autrement, on n'a vraiment pas l'impression qu'un canon est en train de se construire. Mais ce qui est paradoxal, parce qu'on a quand même... effectivement quand même une implication des créateurs d'une œuvre à l'autre. Ce ne sont pas complètement isolés les unes des autres. Bong Joon-ho est producteur sur la série. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été fait complètement loin de lui non plus. C'est peut-être pour ça aussi que ça a alimenté les fan theories sur le fait que ça serait un prolongement. Mais finalement, c'est complètement différent. Pour Melanie, peut-être, honnêtement, ça me surprendrait dans la logique de la série. Pour moi, ça me surprendrait beaucoup. Je pense qu'elle va revenir, mais je ne sais pas de quelle façon.
Honnêtement, je pense que, encore une fois, élément qu'on aborde rarement à l'université, là, on a une question de négociation de contrat. Parce que généralement, les comédiens sont payés plus cher pour apparaître dans une troisième saison d'une série. Et Jennifer Connelly est quand même une vedette hollywoodienne. Elle a un grand rôle dans Snowpiercer. Donc, probablement qu'actuellement, son retour va dépendre...
J'avais l'impression qu'elle avait déjà signé quand ils ont fini la saison. Mais parce que c'est sûr qu'elle revient, en tout cas. Ça, c'était... Okay. Mais après, est-ce que c'est sous forme de cameo? Est-ce que c'est sous forme de flashback? On n'en sait rien, là. Mais,
Ils peuvent aussi ne pas dire c'est là signé justement pour préserver le suspense.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Pour revenir dans la chronologie un peu des variations, dans le film, il y a une transformation, justement, tu l'évoquais, Hélène, qu'ils prennent un aspect qui n'est que évoqué dans la série initiale, qui est celle d'une révolte et qui ne fait pas l'objet d'un traitement dans l'univers, au fond, très, très noir, qui est plutôt du côté d'une volonté de survie. Et d'ailleurs, Prolof, avec ce nom complètement emblématique entre le prolo et le côté russe, donc Prolof devient une sorte d'emblème, mais à la fois presque une sorte de cliché ou de caricature. Mais là, plus que le révolutionnaire menant le peuple, c'est vraiment celui qui est en train de fuir constamment. Donc, on est dans le film, on a vraiment une réflexion assez particulière, qui a été beaucoup étudiée et tout ça. C'est quand même un film qui a été beaucoup interprété par la suite, parce que bon, l'univers du transpersonnage que beaucoup de gens ne connaissaient pas parmi les critiques de cinéma américains, etc., etc. Et bon, c'est la découverte d'une sorte de nouvelle vision quand même d'une certaine lutte des classes qui reste malgré tout à l'horizon du film et qui d'ailleurs serait intéressant à revoir avec Parasite, par exemple. Je pense que c'est intéressant de voir un peu les coordonnées, un peu comment elles se situent. Et là, du coup, on a aussi l'aspect transculturel. Donc, il y a effectivement le côté transnational, mais je pense qu'il n'y a pas une totale dilution. Je pense qu'il y a un côté transculturel, en tout cas pour ce qui est de l'auteur lui-même. Et je pense que, évidemment, la Corée est là une situation tout à fait particulière. C'est la vie dans l'angoisse de la confrontation, mais c'est aussi dans l'angoisse de l'extermination et l'oblitération. C'est en sachant que c'est un conflit qui peut tout de suite dégénérer. Et donc, il y a un côté quand même un peu apocalyptique qui est moins commenté, parce qu'on commente toujours ça par rapport au Japon, à l'imaginaire japonais, etc. Mais je pense qu'il y a un courant dans l'univers coréen, sud-coréen, il y a vraiment quelque chose d'une menace étrange qui plane sur cet imaginaire. Et je pense qu'au fond, le fait que ça devienne une réflexion sur l'impossibilité, sur les paradoxes de la manipulation politique et de la révolte qui est totalement chaperonné par le système et prédéterminé par le système, ça devient quelque chose d'ambigu, parce que c'est à la fois le regard de l'autre nord-coréen, de l'imaginaire de la révolution communiste, mais c'est à la fois aussi, par rapport à la Corée du Sud et sa situation particulière, c'est aussi quelque chose d'assez singulier, dans le contexte aussi de révoltes asiatiques qui se sont enchaînées un peu dans ces années-là. Et je pense que l'idée que la révolte est au fond un mécanisme carrément d'eugénisme social et presque malthusianiste de contrôle de la population, et là on pense inévitablement à la Chine, mais cette idée de contrôle de la population, mais en même temps une sorte d'espoir, parce que cette mécanique très bien huilée où le système s'autogénère en créant des faux espoirs de révolte et en écrasant la révolte par la répression, contrôlant la population au sens vraiment malthusien et eugéniste, mais à la fin, le fait que le train déraille s'ouvre sur un espoir. Et ça, c'est très particulier parce que là, du coup, il y a comme un autre discours révolutionnaire étrange qui est qu'une sorte de révolution, malgré tout, est possible, mais qui passe par la destruction de l'ensemble de ces mécanismes. Et l'image finale de l'ours polaire, là, pour le coup, on est dans une fiction de Clive Fyle, c'est-à-dire que c'est l'image qu'on a tous vue mille fois du réchauffement climatique, etc., etc. Sauf que là, ça devient non pas le signe de la détresse, mais ça devient le signe du renouveau et de l'espoir. Donc, je pense qu'il y a quand même un dialogue intéressant qui se crée avec l'univers de la série. Je pense que ce n'est pas tout à fait un optimisme nié du type happy ending hollywoodien, même si ça peut fonctionner comme ça aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus complexe. C'est que la révolte, malgré tout, elle réussit à dépasser le cadre de son contrôle préétabli, donc où tout est vraiment paramétrisé. Et c'est par une sorte de surplus de révolte que la machine en vient à être déraillée. Et c'est curieux, je n'ai pas de théorie pour expliquer vraiment qu'est-ce que ça voudrait dire, mais je trouve que c'est singulier. Dans une œuvre aussi politiquement chargée comme le transpersonnage du début, je pense qu'il y a quand même une réflexion intéressante qui s'est faite.
Par rapport à ce que tu viens de dire, Antonio, par rapport à la démarche transculturelle de Bong, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que justement, en Corée du Sud, le capitalisme est une importation. Est une importation qui est imposée, puis qui est imposée aux Sud-Coréens, pas nécessairement parce que, au sortir de la guerre de Corée, pas nécessairement parce que c'est la meilleure chose pour ce pays-là, parce que dans les premières années, il y a un vrai dilemme, il y a un vrai débat qui se joue dans la population, hein, parce que du côté du Nord, bon, ils ont opté pour le communisme, puis est-ce que justement c'est la meilleure voie à suivre versus donc, la voie imposée par les Américains, etc. Il y a un vrai débat de société en Corée autour de ça, et autour du fait que justement, on ne leur a pas donné le choix, et par la suite, pendant des décennies, la dictature du General Park en Corée du Sud va justement imposer de manière extrêmement violente cet assujettissement au capitalisme à l'américaine et qui va essentiellement faire de la Corée du Sud à toute fin pratique quasiment une colonie là, américaine dans l'Asie de l'Est. Donc toute cette dimension d'être dans un système qu'on nous a imposé est clairement, je pense, quelque chose qui viendrait peut-être expliquer la distinction qu'il y a entre la manière dont Bong perçoit le transpersonnage et la manière dont des Français ou des Occidentaux qui font le transpersonnage ou qui l'adaptent le perçoivent. Parce qu'il y a toujours cette idée aussi que dans les adaptations occidentales que ce sont ces personnages-là, ces individus-là qui ont construit la machine qui par la suite devient un peu leur damnation. Alors qu'on reste un peu, je pense, à l'extérieur de ce rapport-là dans l'adaptation de Bong. On est pris dedans. Et en étant pris dedans, ben c'est notre champ de bataille qui vient périmétrer, dans le fond, hein, les limites du combat. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à l'intérieur de cet espace-là, sans jamais pour autant pouvoir y échapper.
En fait, ce que tu dis, ça enrichit encore plus ce que j'allais dire par rapport à Antonio. Je ne suis pas sûre que c'est un surplus de révolte. Je pense que c'est une révolte parallèle qui nie le système du train. C'est-à-dire que pendant tout le film, les deux personnages coréens, Yuna et son père, ne sont pas du tout dans la révolte des autres. Ils sont en parallèle complètement. Ils sont toujours en train de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Ils sont à l'extérieur du train, en fait, symboliquement. Ils ouvrent les portes pour la révolte parce que ça leur sert bien, parce qu'eux, ils veulent sortir par la porte qui est en avant. Ils ramassent de la drogue tout au long, ce qu'on pense, que tout le monde les juge parce que tout le monde pense que c'est juste parce qu'ils veulent se droguer, parce qu'ils sont justement pas dans la révolte sociale. D'ailleurs, on les juge tout le film. Nous, on est en train de faire une révolte sociale, on est en train de renverser le système, et vous voulez juste vous droguer. C'est de l'escapisme. Et puis, au bout, on se rend compte qu'en fait, c'était juste qu'ils étaient dans leur propre révolte. Ils étaient dans une révolte qui était pour les mener à l'extérieur du train. Puis c'est la révolte à eux qui marche. C'est pas une révolte en plus des autres, mais c'est de dire le système pour lequel vous vous battez, le système que vous voulez renverser et remplacer, c'est un système qui pourra jamais marcher. C'est un système qui tourne à vide, qui est absurde, comme le capitalisme sans doute en Corée du Sud.
C'est aussi parce que c'est la perspective écologique qui reprend le dessus, paradoxalement, qui elle était un peu niée comme possibilité dans le transpersonnage initial. Et ici, c'est comme une autre, effectivement, c'est l'autre révolte ou l'autre vision de la révolte, ou la révolte dans la révolte. C'est-à-dire que finalement, c'est l'autre regard qui est un regard, lui, écologique, et qui, lui, prend en compte l'écosystème dans lequel la machine s'établit. Pour tout le monde, le monde se réduit à la machine. Et eux, ils voient l'écosystème global dans lequel la machine est intégrée. Donc, c'est pour ça que la fable, je trouve que la fable écologique, qu'on perdait un peu, qui n'était pas perdu, mais qui était juste un arrière-fond vraiment apocalyptique dans la bande dessinée, ici, ça devient une vraie possibilité de renouveau.
Je voulais revenir justement sur la fin du film de Bong Joon-ho. Pour les personnages qui réussissent à quitter le train, est-ce réellement une fin optimiste? Et la réponse, c'est non. Ils vont mourir de froid, ils n'ont nulle part où aller. Mais je pense que l'image des ours polaires, et là, tu as tout à fait raison, Antonio, de dire que c'est un message écologique, mais c'est un message écologique qui est très cynique, parce que ce que Bong laisse présager, c'est une idée très Houellebecqienne que l'avenir de la planète va se faire sans l'humanité.
Oui, c'est une possibilité, et je pense que c'est intéressant la fin, parce que la fin, ce n'est pas la mort, parce que ça pourrait être qu'eux, ils marchent dans la glace et ils meurent. Ça pourrait
ils sont mangés par l'ours polaire.
Oui, exact, oui, aussi, oui, parce que ça serait génial, en fait, parce que c'est vrai que l'ours, il est super mignon, mais en général, il est quand même extrêmement féroce.
Il doit avoir faim aussi.
Oui, ouais, puis c'est drôle parce que les requins sont toujours un signe de menace dans les films, et les ours qui sont aussi féroces sont... Mais en tout cas, je pense que un petit coup de génie quand même de cette fin, c'est ça. C'est soit on peut avoir une lecture deep ecology, de dire de toute façon, il faut détruire le système et nous avec, parce que nous sommes le problème. Donc ça, c'est une lecture possible. L'autre lecture possible, qui va plus dans le sens d'un happy end narratif auquel on est quand même habitué, etc., c'est l'idée que peut-être que, et là, on peut tout imaginer, c'est-à-dire que peut-être s'il y a l'ours, il y a aussi peut-être autre chose, enfin bon, etc. Donc, cette idée de rester dans l'incertitude, je trouve que c'est quand même un bon... Bon, en même temps, ça ouvre la perspective du film et ça ne la ferme pas sur une vision. Dans ce sens-là, la bande dessinée, elle était délibérément fermée parce qu'aussi, elle voulait faire un statement et que la clôture était aussi une vision... très désespéré, en fait.
Mais moi, à la fin, je l'ai vu comme le film au complet, c'est-à-dire comme une fable. On peut pas plaquer du réalisme là-dessus, à mon avis, parce qu'il n'y en avait pas dans le film. C'est-à-dire que tout le long du film, à chaque étape, on n'essaie jamais de rendre ça réaliste. Donc, d'essayer... Moi aussi, mon premier réflexe, c'était d'imaginer, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est complètement con. En plus, ils n'ont même pas de gants. Clairement, les gens qui ont fait le film n'ont pas été souvent dans un hiver à ce point-là froid. Puis en plus, ils sortent finalement dans les montagnes, alors qu'on a vu quelques jours plus tôt, voire 24 heures plus tôt, on ne sait pas trop combien ça dure de temps, le film, mais que juste de mettre le bras de quelqu'un dans ces mêmes montagnes-là pendant 7 minutes était complètement gelé. Donc, je pense qu'il n'y a pas un effort de réalisme. Je pense qu'Antoine, tu as raison, c'est une fable écologique, la fin, puis on ne peut pas vraiment y lire plus loin que ça. Par contre, la série, je pense que permet justement de réfléchir à ça pour vrai. C'est ça en ça qui est intéressante, à mon avis, puis qui est justement une adaptation plus contemporaine, c'est-à-dire que là, c'est la science. On n'est plus du tout dans la fable, on n'est plus du tout dans la symbolique, on est dans, OK, mais scientifiquement parlant, qu'est-ce qui se passe dehors? Mélanie, qui est le personnage quand même principal, on pourrait dire, Layton et Mélanie sont les personnages principaux, mais Layton est plus dans, fait plus suivre qu'agir, en fait. En général, il est pas tant dans l'action, mais Mélanie est une scientifique. Donc, on a un personnage principal de scientifique qui a conçu le train, qui comprend parfaitement tout ce qui est à l'extérieur, comment ça fonctionne, la climatologie, la chimie. Quand elle sort, elle récolte de la neige et elle se rend compte qu'il y a du CW7 dedans, qui est dans la même chose que dans le film, c'est-à-dire que les produits chimiques qu'on a injectés dans le ciel pour faire baisser la température sont en train de retomber. Et donc, que la période glaciaire pourrait être en train de finir plus tôt qu'on pensait. Et donc là, son réflexe à elle, c'est de quitter le train, aller dans une station climatique, lancer des ballons sondes pour récolter des données, pour créer un modèle scientifique qui va permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Cette science-là, elle est instrumentalisée de manière politique dans le train, ce qui est encore plus contemporain d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, on a une lutte intestine dans le train des gens qui ont une pensée plutôt, ben déjà une pensée qui est une base plus scientifique, donc qui est basée sur la raison, mais aussi qui est une pensée qui est centrifuge, qui est de vouloir dire le train, ça ne peut pas être une fin en soi, il faut qu'on réfléchisse à notre avenir à l'extérieur, il faut qu'on trouve le moyen d'y réfléchir un jour ou l'autre, on ne pourra pas rester ici sans fin. Alors que ses opposants, qui sont très populistes, qui sont très bling-bling, donc qui sont anti-scientifiques, ont une position beaucoup plus centripète, qui est de dire... non, la solution, c'est le train. Il faut recréer un équilibre. Il faut utiliser, il faut repousser cette idée-là et puis recréer vraiment un système politique solide, puis convaincre la population d'embarquer. Donc, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, mais qui réfléchit à cette idée-là de l'extérieur de manière assez intéressante.
Oui, puis c'est curieux parce que c'était aussi le point de vue quand la bande dessinée avait repris en 99, c'était justement avec un titre qui était Les Arpenteurs et c'était la nouvelle figure. L'Arpenteur, donc la figure des arpenteurs, ces gens qui sortent régulièrement du train. Donc c'est curieux parce qu'on voit qu'à chaque fois aussi, il y a un peu cette tentation de sortir du train.
Ils sont dans la série d'ailleurs, les Arpenteurs. C'est ce qui le rapproche aussi peut-être plus de la bande dessinée. Mais les Arpenteurs dans la bande dessinée, un de leurs rôles principaux, c'était d'aller chercher des œuvres qui étaient abandonnées dans les grands musées pour le dictateur local. Ce qui est assez intéressant en soi, parce que pour moi, l'apocalypse glaciaire, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup une perte de sens, une perte de civilisation, une perte de signes. Moi, je le lis, en fait, c'est ce type d'apocalypse-là, pour moi, ce sont des apocalypses sémiotiques, c'est-à-dire que les signes ne font plus sens, on n'est plus capable de décoder notre environnement parce que notre façon de décoder notre environnement est basée sur notre connaissance des saisons, du cycle des saisons, de la nature, mais ça, c'est bloqué. Et en plus, les signes que nous, on a produits sur le territoire, les signes géographiques, sont recouverts de neige. Et donc, on a perdu à la fois les signes de la nature qu'on était capable ou pas de décoder, et puis nos propres signes qui sont en train de disparaître et qui ne nous permettent plus non plus de maîtriser le territoire. Et puis les Arpenteurs, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est la tentative désespérée de récupérer ces signes-là et de les réintégrer dans le train. Et puis on les voit, ils vont dans les musées, puis on voit les sculptures qui sont recouvertes de neige. C'est assez efficace, alors que dans le film, on voyait que ces signes-là étaient hyper importants aussi, c'est-à-dire que c'est les signes qui nous permettent de savoir que le climat est en train de changer. Donc, au fond, l'absence de signes, c'est le hors-temps. Donc, toutes ces histoires-là, avant qu'on entre dans une fin qui est peut-être un retour, on est toujours dans un hors-temps où on tourne à vide et puis où il n'y a pas de signes extérieurs, où les signes sont stables, en fait, et donc on ne peut pas faire signifier le paysage autrement que de dire c'est un ailleurs impossible à atteindre. Plus soudainement, le fait que les signes réapparaissent nous donne de l'espoir, comme les Arpenteurs nous donnent de l'espoir, comme Mélanie, c'est la même chose, elle va détecter des nouveaux signes. Donc, on est vraiment dans l'ordre de faire signifier le monde extérieur pour l'opposer à ce monde intérieur-là qui est sursignifié. Le train est surpeuplé, sur symbolique, chaque wagon a un symbole, la nature est symbolisée par un wagon où il y a des animaux, l'éducation par un wagon où il y a une école, donc on est toujours comme ça dans la culture qui domine partout, qui occupe les cases complètes aussi hein, dans la bande dessinée, puis dans le film qui est surcolorisé aussi, donc on voit contrairement à la queue, donc qui s'oppose au blanc de l'extérieur, donc pour moi je pense que tu as raison, je pense que l'espoir vient aussi de la sortie vers l'extérieur, mais aussi du fait d'être capable de faire sens à l'extérieur. Je pense que l'ours polaire joue aussi là-dedans.
Oui, d'ailleurs, c'est aussi un point qui rassemble directement les Arpenteurs, la Compagnie des Glaces. Je pense que si Loeb n'avait peut-être pas en tête l'œuvre en gestation, et là, il faudrait vraiment regarder à quel moment de l'année ils sont sortis, chacune des œuvres, etc. Mais je pense qu'en 99, oui, dans l'œuvre de Le Grand, il y a déjà plus dans la Compagnie des Glaces, l'univers est beaucoup plus complexe. C'est tout un monde, un peu plus un univers qui est créé autour de ces trains, mais aussi des gares, etc., de tous ces éléments qui n'apparaissent pas dans le transpersonnage. Et c'est très curieux parce qu'il y a eu des tentatives d'adaptation de la Compagnie des Glaces, qui est aussi quand même une œuvre très, très forte et très visuelle. Mais je pense que c'est le côté labyrinthique de son univers et très rocambolesque aussi de ses péripéties qui est au contraire du côté très synthétique et presque austère du transpersonnage qui lui a permis d'être réapproprié par d'autres auteurs.
Il me semble qu'il est adapté en bande dessinée, non?
Oui, en bande dessinée, oui. Je pensais au cinéma, en fait, qu'il y avait eu. Mais oui. Non, en bande dessinée, ils ont fait une dizaine, je pense, d'albums que j'ai lus. Techniquement, ce serait intéressant aussi de voir un peu l'évolution de ces univers. Aussi, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué qui était très présent dans la bande dessinée et qui a été présent dans les suites, c'est justement l'aspect de critique anticléricale qui, là, est très française pour le coup, parce qu'il y a une longue tradition de satire anticléricale qui remonte à des siècles. Mais effectivement, cette idée aussi que dans l'univers aliénant de la machine, il y a un peu comme les strates aussi des différentes aliénations qui se sont succédées de l'âge féodal, de l'âge théocratique, de l'âge industriel, et donc comme une sorte de condensé de toutes les formes d'aliénation possibles. Et ça, c'est curieux aussi de voir comment les adaptations sont moins férues de cet aspect-là, qui est peut-être un aspect qui, culturellement, n'a pas passé. Et quand on est dans un truc transculturel comme ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas.
Il y a une question de temps aussi, hein? Je ne suis pas sûre que la BD française n'est pas du tout dirigée vers là. Je pense que dans les années 80, on le faisait peut-être encore beaucoup en France. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit encore un grand sujet de discussion. Mais ouais, je pense que c'est assez disparu. Maintenant, on parle de secte dans les bandes dessinées plutôt que de...
Il y a eu quand même tout l'aspect de l'islam qui est revenu, donc toute cette tradition justement des harakiri, etc., qui était très anti-catho et tout ça, qui, elle, s'est réinventée autour de la question de l'islam et tout ça, avec tous les problèmes qu'on sait et qu'on a connus. Mais justement, dans un aspect transculturel et transnational, c'est vrai que ça fait partie un peu des tabous qu'on ne veut pas trop évoquer, c'est de dire on ne va pas trop se prononcer sur la religion des gens. Et je pense que c'est aussi assez singulier parce que ça montre aussi quand même que dans le transnational, il y a aussi un aspect un peu de police, un peu de, au sens étymologique, de qu'est-ce qui est représentable et qu'est-ce qu'il est bon de représenter.
Mais dans la série, on a un personnage de prêtre multiconfessionnel, donc ça va pas mal dans ton sens, mais qui se révèle pour dire le moins problématique, voire du côté des méchants, donc c'est pas inintéressant quand même. Il aborde quand même la question, puis c'est un peu problématique, ouais.
Mais l'idée aussi que la machine soit une religion était intéressante. Je veux dire, au-delà du côté de son aspect catholique qui fait penser à la Sainte Inquisition et tout ça, mais je pense que l'idée aussi que cette machine ait généré sa propre religion, c'est très typique de la science-fiction, par ailleurs, des novum, et que justement, si on est dans un monde qui est une machine, ben on va inévitablement diviniser la machine. C'est aussi les cargo cults, et tout ça qui était aussi à la mode dans les Mondo, les documentaires Mondo et tout ça. Mais c'est cette idée qui je pense est intéressante aussi, c'est de dire que il y a à la fois donc le nouvel âge des ténèbres, non, que la science elle disparaît dans le monde de la bande dessinée et qui réapparaît dans la série, mais que justement dans ces nouvel âge des ténèbres, bah, ce qui prend un peu la place de ce qui était le rationalisme industriel, c'est le retour de la religion. Donc, le cannibalisme aussi, qui est quand même un aspect important, je pense, dans cet imaginaire de l'horreur, donc, qui, lui, est très malthusien. Et évidemment, on pense à Soylent Green, au classique film donc Fleischer, qui était présent dans l'imaginaire de la surpopulation. Je pense qu'il y a aussi, dans les années 80, cette idée qui était vue comme une sorte de panique, alors que maintenant, on est vraiment encore plus dans la surpopulation. Mais on dirait que ça fait partie de notre répertoire des cauchemars, mais peut-être pas de la même manière.
C'est vrai que dans le film, quand on voit les barres de protéines qui sont repris dans la série d'ailleurs, puis qu'on voit Curtis voir comment ça a été fabriqué, on s'attend tellement à ce que ça soit du Soylent Green, puis finalement c'est des insectes, puis il est horrifié, puis il faut absolument pas qu'on le montre. On est comme, ouais, il me semble que c'est le meilleur des scénarios possibles. À quoi tu t'attendais? Donc, ouais, je pense que Soylent Green a beaucoup influencé notre imaginaire de ça. Mais le cannibalisme, il apparaît surtout dans le film quand même. Il est évoqué surtout dans le film. J'ai pas... Dans la série, je penserais pas. Puis je suis pas sûre que dans la bande dessinée, il soit tellement évoqué.
Vrai, c'est le mama, la maman énorme masse de viande artificielle auto-originatrice. Mais oui. Je pense qu'il y a... C'est vrai que c'est aussi le fait qu'on connaît Soylent Green qui fait qu'on projette quelque chose du cannibale là-dedans. Mais disons que cette masse de viande, elle n'est pas très expliquée. On ne comprend pas non plus qu'est-ce que c'est comme... C'est un peu à la fois le rêve du manin, parce que c'est ça la reprise étymologique. Donc, c'est l'idée du manin qui coule des cieux, etc. Mais qui a une origine quand même un peu plus sombre, un peu d'ingénierie génétique qui n'est pas très claire.
Ça a un côté lovecraftien aussi.
Oui, c'est ça. Ça fait partie un peu des côtés pas tout à fait explorés dans l'univers d'origine, mais qui a un côté un peu inquiétant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui arrive plus dans les bandes dessinées ultérieures. Je pense que là où on voit vraiment...
Oui, ben, en fait, par rapport à toute cette question de la représentation du catholicisme et du cannibalisme dans le film de Bong, j'aurais ajouté que, en fait, le catholicisme en Corée du Sud a vraiment une présence dans la société, dans l'espace public, qui n'est vraiment pas disons, la même chose qu'en Occident, hein, puis qu'en France, là, où justement, ça fait, tu l'as évoqué, Antonio, il y a une très, très longue tradition là, de se moquer du clergé, alors que ce n'est pas du tout le cas en Corée du Sud, au contraire, c'est très mal vu encore. Puis par rapport au cannibalisme, qui effectivement me semble assez peut-être propre au film de Bong, je trouve que le Snowpiercer de Bong, hein, préfigure beaucoup Okja. Et aussi beaucoup Parasite. Je trouve qu'il y a comme une espèce de trilogie de Bong à travers ces trois films, hein, sur le capitalisme, puis avec toujours un peu la même finalité, c'est à savoir que, dans le fond, si on pense à l'écologie, si on pense par exemple à l'écologie aussi par rapport aux animaux, puis au végétarisme et tout ça, il n'y a pas de capitalisme sain face à ces problématiques-là. Hein. C'est un peu toujours ça la conclusion de Bong par rapport à ces sujets-là. Puis donc, enfin, donc, par rapport au cannibalisme, hein, il y a aussi donc une histoire du cannibalisme, je dirais, qui est beaucoup plus prégnante en Corée que ça peut l'être là, de mémoire récente en Occident. Puis justement, ça a sans doute été une inspiration de Bong pour Snowpiercer. Aux alentours des années de début 2010-2011, il y avait beaucoup de scandales en Corée du Sud parce que justement les services de renseignement sud-coréens avaient été en mesure de prouver que dans les périodes de très grandes famines en Corée du Nord, puis il y a eu, on le sait, beaucoup de très grandes famines en Corée du Nord dans les 30-35 dernières années, ben justement, le cannibalisme était revenu. Puis il y a une histoire aussi du cannibalisme là, dans les 100-150 dernières années en Asie de l'Est et du Sud-Est, là, que ce soit en Corée, que ce soit pendant la guerre du Pacifique, en Asie du Sud-Est, qui est beaucoup plus loin de nous, là, je dirais, que ça peut l'être pour des Sud-Coréens. Puis je pense qu'on reconnaît bien là aussi, là, vraiment... le fait que ce soit un film bon, transculturel, transnational, puis avant tout un film de Bong Joon-ho, en fait.
Oui, puis je pense que c'est un bon exemple, d'ailleurs, à la fois l'aspect transculturel et à la fois le côté mythopoétique, parce que c'est vrai que les variations autour de comment les gens mangent, parce que c'est une question, puisque ça, c'est vrai que Loeb avait vraiment voulu faire comme une sorte d'univers, de voir un peu comment fonctionnerait un univers basé sur ce simple novum, de dire bon, bah, tout le monde est dans un train, puis il faut tout faire là-dedans. Donc, c'est curieux que, en fait, ce soit comme quelque chose un peu prédéterminé par l'aspect malthusien et qu'au fond, ce que le film apporte, c'est comme la concrétisation d'une sorte de motif qui est associé au malthusianisme. Donc, c'est comme si on prend une fable malthusienne et inévitablement, on va arriver à une question de cannibalisme ou d'eugénisme. Et donc, chacun va trouver une variation autour de ça. Donc, soit cette sorte de viande bizarre qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas trop c'est quoi, soit la décivilisation. Donc, intéressant de voir que c'est une œuvre in progress, autant pour les préquels en bande dessinée que pour la série Netflix, et qu'on n'est jamais à l'abri d'une séquelle cinématographique quelconque.
D'un jeu vidéo.
Oui, un jeu vidéo, comme Simon le signalait. Et donc, cette... très étonnante histoire de comment, à partir d'une œuvre très atypique, on en est venu à un succès global du monde, justement, des franchises transnationales, etc. Mais qui maintient un germe original depuis le début. Peut-être un peu comme Westworld, d'ailleurs, l'idée que de quelque chose qui, à l'origine, était quand même une sorte de... one shot, ou après ça a continué, et puis après c'est devenu quelque chose de... Donc on est aussi en train de construire des univers à partir de quelques niches qui sont frappantes et de quelques métaphores presque, parce qu'à chaque fois c'est l'idée d'une sorte de métaphore centrale, comme ici le train et comme le parc thématique dans Westworld, et on revisite ces univers dystopiques ou post-apocalyptique. Donc, merci encore, donc, Hélène, merci Simon, merci Mathieu. On se retrouve sans doute bientôt pour d'autres explorations de notre imaginaire pop contemporain. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, et donc à une prochaine.